en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Patrick Charnay, bonjour. Alors, depuis le mardi 14 juin 2005, vous êtes officiellement académicien des sciences, comme 23 de vos collègues. Depuis 96, vous étiez élu correspondant. Et aujourd'hui, vous faites donc partie de la section biologie cellulaire, moléculaire et génomique. Vous faites désormais partie des 200 académiciens des sciences. Vous êtes aujourd'hui dans les studios de Canal Académie pour qu'on puisse lever le voile sur votre carrière. Alors commençons sans plus tarder, si vous le voulez bien. Vous avez 51 ans, si on peut le dire.
Oui.
Et vous exercez.
Il n'y a pas de honte à ça.
Et vous êtes actuellement directeur de recherche à l'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, dans l'unité biologie moléculaire du développement, c'est cela ?
Oui, tout à fait.
Alors comment en êtes-vous venu à vous intéresser à un sujet aussi pointu que la génétique moléculaire du développement ?
Alors là, c'est une longue histoire.
Vous saviez que vous venez travailler dans la recherche dès le départ ?
Oui, ça, je pense que je l'ai su relativement tôt. Enfin, je pense que je l'ai su dès que j'étais enfant. Mais dans quel domaine, bien entendu, je ne le savais pas. En fait, pendant, je pense, toute ma jeunesse, je me destinais à devenir chimiste. J'étais un peu fasciné par les réactions chimiques. Je trouvais que ça avait un caractère extrêmement spectaculaire et je trouvais ça assez fascinant.
Vous aviez déjà un esprit scientifique ?
Je crois, oui. J'étais un peu préformaté en quelque sorte pour ce domaine. Et puis, j'ai suivi un cursus scolaire, disons, standard quand on est un bon élève. J'ai abouti à l'école polytechnique. Et puis là, en fait, j'ai essayé de faire de la chimie. Et puis, j'ai travailler dans les laboratoires de chimie et en fait je me suis aperçu que la vision que j'avais de la chimie c'était la chimie du 19e siècle, c'est-à-dire c'était une espèce un peu de cuisine, et que la chimie qui se pratiquait disons vers la fin du 20e siècle, c'était plus du tout ça, et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup moins. Mais en même temps je me suis aperçu que la biologie, puisque j'ai pu en découvrir quelques aspects à ce moment-là également.
À Polytechnique ?
Oui. En fait, correspondait très bien à l'idée que je me faisais de la chimie. C'est la raison pour laquelle j'ai à ce moment-là bifurqué. Et j'ai décidé, en tout cas, d'essayer de commencer à m'intéresser à la biologie. Je pensais biochimie à l'époque, parce que justement, c'était le pont. Bon, et puis, il se trouve que j'ai eu la chance de faire ce saut à un moment qui était tout à fait charnière dans l'évolution de la biologie, en sens que ça a été le moment où sont apparues les manipulations d'ADN, c'est-à-dire la capacité à modifier l'hérédité des organismes. Et ceci, c'est un changement tout à fait fondamental dans la biologie, en sens que la biologie, si vous voulez, on peut dire un avant et un après de cette période, car la biologie auparavant était une science essentiellement descriptive, c'est-à-dire qu'on n'était pas capable d'intervenir vraiment sur les mécanismes, on pouvait tenter de les observer, éventuellement de les comprendre parfois, mais on n'était pas capable d'influer au niveau des gènes et donc de modifier le programme génétique qui gouvernait des tas de mécanismes dans les organismes vivants. Donc ça, c'est une transition extrêmement importante.
Et vous nagez dedans en fait.
Je suis tombé dedans un peu comme Obélix dans la potion magique. Je suis tombé au moment où ce domaine naissait en quelque sorte, et ça c'est toujours une période évidemment extrêmement excitante. Quand il y a un nouveau domaine qui s'ouvre, ça permet une multitude de potentialités. Les champs sont tout à fait libres. Il y avait énormément de choses à faire. Bon, il se trouve que à ce moment-là, je me suis intéressé du fait du laboratoire dans lequel j'ai atterri en quelque sorte à travailler sur le génome du virus de l'hépatite B. Et ça, c'était quelque chose qui était tout à fait passionnant à l'époque.
Alors justement, donc vous avez fait votre thèse,
ouais.
Et votre thèse, expliquez-nous, a contribué en tout cas à la création du vaccin contre l'hépatite B ?
Oui, certainement, oui. C'est-à-dire ce qu'on a fait au cours de ce travail, ça a été Donc on disposait des outils à l'époque qui venaient de naître en quelque sorte pour pouvoir ce qu'on appelle cloner l'ADN, c'est-à-dire isoler l'ADN d'un organisme et le faire répliquer dans une bactérie, ce qui en rendait la manipulation beaucoup plus pratique, beaucoup plus aisée.
On est dans les années 80 ?
C'est ça, oui. On est dans les années, disons, à la fin des années 70, hein, moitié des années 70. Avec cette méthodologie, on a pu faire des choses qui étaient totalement inaccessibles. En particulier, donc nous, ce qui nous a particulièrement intéressé, ça a été donc d'isoler cette molécule du génome du virus de l'hépatite B. L'idée, c'était de pouvoir produire ce qu'on appelle l'antigène vaccinant, c'est-à-dire en fait une des protéines du virus qu'on ne peut pas purifier facilement, aisément, et disons la purification est possible à partir de porteurs du virus, mais elle pose des problèmes de sécurité qui sont devenus de plus en plus difficile à traiter. Donc l'idée, c'était plutôt de fabriquer dans le laboratoire cette protéine, et pour ça, il fallait disposer du morceau d'ADN qui codait pour cette protéine. Donc on a pu isoler l'ADN du virus en le clonant dans la bactérie, ensuite établir la séquence nucléotidique, c'est-à-dire le code, en quelque sorte, qui gouverne l'expression des protéines de ce génome viral, et enfin produire effectivement cette protéine dans la bactérie. Donc ça, c'est clair que ça constituait les bases, en quelque sorte, de ce qu'est actuellement le vaccin, puisque le vaccin, bon, il est plus produit dans la bactérie, il est produit dans de la levure, mais le principe était établi, et les éléments, en particulier donc la séquence codante pour cette protéine, étaient définis par notre travail.
Et combien de temps vous a pris cette recherche ? À chaque fois, c'est sur plusieurs années.
Oui, c'est sur plusieurs années, bien entendu, mais je dirais que ça a été relativement rapide. Hein. À partir du moment où on s'est lancé dans l'étude du virus, ça nous a pris peut-être un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Donc, ce qui, à l'échelle d'un chercheur, finalement, c'est une période très courte. On peut considérer que c'est très bref. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que si on devait refaire cette expérience aujourd'hui, avec les technologies dont on dispose aujourd'hui, ça nous prendrait 15 jours. Bon, évidemment, là, il y a eu des améliorations techniques tout à fait considérables. Donc, on peut faire maintenant des choses encore beaucoup plus sophistiquées, bien entendu, que ce dont on était capable à cette époque-là.
Et alors, aujourd'hui, à l'INSERM, en quoi consistent vos travaux ? Quels sont vos projets principaux ?
Donc, aujourd'hui, bon, ma thématique a changé de façon tout à fait radicale. Ce à quoi je m'intéresse, c'est de façon générale ce qu'on pourrait appeler les mécanismes de régulation génétique, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels la production de toutes les protéines d'une cellule ou d'un organisme est contrôlée, et de façon ultime, en quelque sorte, la façon dont cette expression différentielle de protéines va contrôler des mécanismes au niveau de l'organisme lui-même, en particulier, par exemple, l'organogénèse, la formation de certains tissus. Nous, ce qui nous intéresse plus spécifiquement, en fait, c'est la mise en place du système nerveux. Mais donc, on regarde cet aspect du développement des vertébrés en général et de l'homme en particulier. On ne peut pas faire, évidemment, d'expérimentation chez l'homme. Mais on dispose de modèles qui nous permettent de reproduire plus ou moins fidèlement ce qui se passe chez l'homme, la souris, mais également le poisson ou le poulet. Eh bien, donc notre thématique, c'est de comprendre comment cette organisation est établie, comment elle est codée au niveau de l'organisation des gènes. Alors, les gènes sont organisés eux-mêmes en une espèce de hiérarchie qui aboutit à la formation de réseaux qui sont extrêmement complexes, puisque le nombre de gènes déjà est important. Hein. Chez l'homme, on estime actuellement que le nombre total de gènes est de l'ordre d'une trentaine de milliers. Donc, si vous imaginez que chacun de ces gènes à des relations, en quelque sorte, des interactions avec peut-être seulement un millier d'autres gènes, vous avez un réseau qui est d'une complexité...
C'est un coefficient des multiplicateurs énorme.
Vous avez un réseau qui est d'une complexité tout à fait fabuleuse. Et donc, je pense que c'est l'un des défis actuellement de la biologie, avec un défi analogue qui est de comprendre, en fait, l'organisation des réseaux neuronaux, hein, qui est un autre potentiel futur de la biologie, c'est de comprendre l'organisation de ces réseaux géniques qui vont gouverner en fait tout ce que font les cellules au niveau cellulaire, mais également tout ce que fait l'organisme au niveau global.
D'accord, c'est de la recherche fondamentale qui peut servir ensuite à la découverte de médicaments pour lutter, par exemple, je sais pas, contre la maladie d'Alzheimer, par exemple.
Absolument, enfin du moins c'est quelque chose qu'on espère. On travaille pas spécifiquement sur une maladie particulièrement. Si vous voulez, notre but, hein, et, bon, vous le disiez, c'est vraiment de la recherche purement fondamentale, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre les mécanismes. Avec l'idée évidemment que si on aboutit à cette compréhension un jour, eh bien, il y aura des applications qui en dériveront. Alors je vais vous donner un exemple de comment ça peut marcher. C'est effectivement une optique qui est assez différente de celle qu'on avait, par exemple, lorsqu'on travaillait sur le virus de l'hépatite B, où notre idée, tout de même, c'était de faire des recherches qui allaient directement dans la direction de produire un vaccin. Là, on est dans une approche qui est strictement cognitive, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre comment les choses marchent. C'est comme si on démontait un réveil et on essaye de comprendre comment il fonctionne. Avec l'idée que, évidemment, si on arrive à comprendre comment les choses marchent, eh bien, il y a des tas de maladies qui sont liées à des dysfonctionnements géniques, c'est-à-dire des gènes qui sont affectés ou qui fonctionnent mal, et que la compréhension du réseau, évidemment, est nécessaire, en fait, à notre capacité à identifier et éventuellement à traiter, en quelque sorte, les dysfonctionnements. Donc, dans ces conditions, il peut y avoir des observations qui vont découler de notre travail un peu par accident et qui auront des applications. Donc je vous donne un exemple. On travaille sur un gène particulier qui, on a pu montrer ça chez la souris et on a découvert ça un peu par accident. On a découvert que ce gène est nécessaire à la formation de la couche de myéline dans le système nerveux périphérique. Qu'est-ce que c'est ? Bon, la myéline, c'est une espèce de couche isolante qui entoure les prolongements des cellules nerveuses et qui accélèrent le passage de l'influx nerveux. Si votre myéline est déficiente, eh bien vous avez de gros problèmes et vous risquez des paralysies. Eh bien, on a découvert un gène et par accident, on s'est aperçu que ce gène était très important chez la souris pour la mise en place de cette couche de myéline. Eh bien, par la suite, il y a d'autres équipes qui ont identifié des gens qui souffraient de paralysie périphérique et qui justement ils ont sur la base de nos travaux ils ont recherché s'il n'y avait pas un dysfonctionnement au niveau de ce gène particulier et ils en ont trouvé. Donc là on a une application tout à fait évidente de nos travaux mais qui n'était pas du tout motivée en quelque sorte au départ dans notre cheminement en quelque sorte.
Venons-en à votre entrée à l'Académie des sciences. Qu'est-ce que ça va changer ou qu'est-ce que ça ne va pas changer? Qu'est-ce que ça va changer pour vous là dans les mois à suivre? Est-ce que ça va vous permettre, je ne sais pas, d'évoluer ou alors de communiquer un peu plus sur vos travaux?
Alors je ne sais pas si ça va changer énormément de choses. Bon, j'avais déjà des relations, je dirais, relativement étroites avec l'Académie, puisque j'étais déjà membre correspondant de l'Académie, donc je participais aux travaux de l'Académie. Bon, c'est clair que, disons, c'est une reconnaissance qui, évidemment, est tout à fait flatteuse et qui nous assure une certaine visibilité par rapport à l'extérieur. Donc, de ce point de vue-là, ça peut-être changer un petit peu notre travail, mais je ne crois pas que ça va changer énormément de choses. D'un point de vue de notre quotidien. Encore une fois, je pense que la situation est différente pour les membres qui n'étaient pas correspondants auparavant et qui n'avaient pas de relation relativement étroite avec l'Académie. Dans mon cas, je pense que le changement va être, disons, assez limité tout de même. Mais j'en suis très heureux. Hein, mais...
Parce que vous êtes quand même très nombreux, hein, la section de l'Académie des sciences. Vous
oui,
êtes
et
quand même,
oui et non. Parce
200,
que... c'est... Oui, mais ça, c'est pas énorme. L'idée, c'est d'avoir au sein de l'Académie la capacité de couvrir tous les champs d'investigation au niveau scientifique. Bon, ben, 200 personnes, c'est loin de pouvoir couvrir tous ces champs. La diversité de la science est telle et la spécialisation de plus en plus importante des investigateurs fait que ça devient très difficile d'avoir une couverture relativement large et c'est ce qui a motivé en fait, c'est l'une des raisons qui a motivé l'accroissement du nombre de membres de l'Académie parce que justement le champ de la science augmente sans cesse et il n'est plus question qu'une centaine de personnes puissent le couvrir de façon efficace. Donc Non, c'était une très bonne initiative, en fait, je crois, d'accroître le nombre de membres. Ça permet. D'ailleurs, on le retrouve à un autre niveau, qui est que vous mentionniez au tout début de notre entretien, je crois, l'intitulé de la section à laquelle j'appartiens. Et cet intitulé a été changé très récemment pour inclure le mot génomique.
Oui, qui est biologie cellulaire, moléculaire et génomique.
Oui, et donc ça, c'est, ça correspond justement à un développement dans notre domaine tout à fait important qui s'est produit au cours des 5-10 dernières années avec des nouvelles technologies qui nous permettent de non plus nous intéresser à un gène à la fois, mais à nous intéresser à tous les gènes d'un organisme. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder le comportement d'un gène chez la souris, eh bien, on va regarder le comportement des 30 000 gènes de la souris ou éventuellement de l'homme. Et vous pouvez imaginer que dans ces conditions, évidemment, la quantité d'informations qu'on va retirer de pouvoir appliquer des approches aussi globales est tout à fait considérable. Donc il y a un changement d'échelle. J'évoquais tout à l'heure la transition importante qui s'est passée avec l'apparition de notre capacité à manipuler les molécules d'ADN, hein, ce qu'on a appelé les manipulations génétiques, avec une connotation qui est pas toujours positive. Hein, on peut l'appeler également le génie génétique, ce qui est certainement plus positif. Bon, je pense que ça a été une véritable révolution en biologie. Et bien là, on est en train d'en vivre une deuxième, en fait, avec l'apparition de la génomique et des techniques qui sont associées, qui va accélérer de façon radicale notre acquisition de connaissances sur le comportement, la fonction et l'implication des gènes dans les phénomènes biologiques.
Merci Patrick Charnay, je rappelle que vous venez d'être fait académicien au sein de l'Académie des sciences et c'était donc le 14 juin 2005. Merci.
Merci beaucoup à vous aussi.